bon pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Ben, ce soir, on va recevoir le planning familial de Reims avec sa présidente. Non, pas du tout.
Pas du tout, non.
Tu es salarié seulement.
Je suis salarié, oui.
Ah, d'accord. Et toi, tu es bénévole.
C'est ça.
D'accord. Ok, ben, vous vous doutez bien qu'on va vous parler de l'IVG, de la constitutionnalisation de l'IVG. Je crois que ça serait bien déjà d'entrée que vous nous faites part de vos réactions. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous le 4 mars ? Que ça a été une journée importante ou pas ?
Ok. Eh bien, au planning familial, on suit cette volonté de vouloir constitutionnaliser le droit à l'avortement. Donc, ça fait plus de 2 ans qu'on suit un peu ce débat-là, puisqu'il fait des allers-retours... entre l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Donc oui, on est contente. C'est inscrit dans la Constitution. Après, dans les faits, ça ne change rien au quotidien pour les personnes qu'on accompagne.
D'accord. Et toi ?
Moi, ma réaction en tant que femme, en tant que féministe, en tant que jeune femme, ça fait du bien parce que ça marque Enfin, ça donne du poids au militantisme et bon, malheureusement, il faut passer par là. Mais quand ça passe dans la loi, ça a une intensité, un poids différent. Et donc, ça, c'est vecteur d'espoir aussi. On se dit que toutes les vagues de féministes nous ont menés jusque-là et on continue d'emporter une nouvelle. Et donc, dans cette dynamique-là, beaucoup de joie et de soulagement. Mais on sait qu'on ne doit pas baisser les bras et que la lutte est encore longue. Et voilà. Mais puis, de la joie quand même.
Puis ça remet quand même des questions importantes un peu quand même au centre du débat politique et puis du débat qu'on peut avoir dans la société, enfin du débat. Oui. En tous les cas, de cette question du droit à l'accès à l'avortement, qui sont malheureusement des choses dont on parle finalement en fait assez peu, quoi, hein, et qui sont des choses très 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 importantes. Quelque part, on en est passé donc par un débat politique à l'Assemblée nationale, au Parlement, très exactement, qui est la réunion du Sénat et de l'Assemblée nationale. Cette adoption, elle s'est faite finalement assez beaucoup plus facilement, beaucoup plus consensuellement qu'on aurait pu le penser, puisque vous me disiez qu'il y avait une quarantaine de parlementaires qui avaient seulement voté contre, avec des abstentions aussi également.
Oui.
Beaucoup ?
Non, je crois pas.
Non, enfin bon, ouais. Comme ça, quand même une large majorité, quoi. Mais quelque part, on a un peu esquivé quand même le débat qui était de savoir comment on fait si on veut avorter dans cette société et dans ce pays en France. Et pour ça, il y a des mouvements comme le planning familial qui permettent d'accéder, de favoriser et de permettre aux femmes qui le désirent d'accéder à ce droit. Concrètement, où en est la situation de l'IVG dans ce pays ? En tous les cas, le droit à l'IVG dans ce pays. Comment ça se passe, en fait, si on veut déjà avoir de la formation et si on veut avoir recours à cette pratique ? Nous, dans notre langage politique, on parle de droit formel et de droit réel. Donc, il y a des droits qui sont inscrits dans la loi. mais l'effectivité de ce droit, le droit réel, donc le droit à le pratiquer, en général, c'est pas la même chose, quoi. Comment, allez, je vais quand même essayer de faire une vraie question avant de me taire. Comment ça se passe alors concrètement? Voilà.
Alors concrètement, effectivement, d'une part, il faut avoir la formation, la connaissance pour pouvoir accéder à ce droit à l'avortement. comment faire? Eh bien, on peut passer par son médecin généraliste, par exemple, s'il a l'information. Il peut déjà donner deux, trois infos. Ensuite, il y a un numéro vert national, le 0800 08 11 11. Ce sont des écoutantes et écoutants du planning familial qui décrochent. Et là, on peut renseigner localement les personnes qui souhaitent accéder à ce droit.
Ouais, pas forcément simple si t'es jeune d'aller voir ton toubib. Déjà qu'on sait qu'il y a une personne sur 10 qui a pas de médecin référent, médecin traitant. Ouais. Mais en plus, quand t'es dit dans des situations un peu délicates, mineurs, jeunes femmes, etc., aller voir le médecin de famille, bon,
ouais,
voilà. Donc
délicat.
Il y a ce numéro vert déjà qui donne une information normalement, fiable,
oui.
Désintéressée, puisqu'on sait qu'il y a plein de petits gens qui utilisent ce type-là pour faire de la contre-information, voire de la désinformation.
Oui.
Donc voilà, ensuite.
Donc ce numéro-là, déjà, je tiens à le mettre en avant parce que c'est un travail qu'on réalise toutes sur le territoire. Donc on met à jour régulièrement les informations pour pouvoir orienter de façon correcte les personnes. Ensuite, si ces personnes ont eu la chance de bénéficier des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ils peuvent déjà avoir 2-3 informations. Et après, il faut se rapprocher d'un centre IVG, d'un centre de santé sexuelle, de l'hôpital, pour pouvoir avoir les informations et l'accès à ce droit, en sachant que ce n'est pas forcément effectif partout sur le territoire.
On sait à peu près les temps d'attente aujourd'hui ?
Alors, si on est à Reims, on va avoir, par exemple, une semaine d'attente entre le moment où je téléphone et mon premier rendez-vous. Bon, ça va encore assez
encore,
bien,
ouais.
Ça va bien. après, quand c'est en milieu un peu plus rural, il faut se déplacer, il faut trouver le bon contact. Donc là, ça peut prendre un petit peu plus de temps.
Et on est sur une IVG dite médicamenteuse ou avec une intervention? Non, une IVG médicamenteuse.
Non, alors ça, c'est le choix de la personne.
D'accord.
Qui décide de la méthode.
Ok. C'est pas forcément imposé ou c'est pas proposé de fait.
Alors, encore une fois, voilà, la loi le dit, l'écrit.
Ouais.
C'est la personne qui fait le choix de sa méthode d'avortement. Après, il y a l'accessibilité et l'organisation, le planning, les agendas, etc. Et parfois, on peut vite proposer l'IVG médicamenteuse en tout début de grossesse sans pour autant donner le choix à la personne de prendre le temps de la réflexion, de savoir ce qu'elle veut pour elle, pour son avortement. Parfois, certains praticiens vont un petit peu vite en besogne en disant « je vous propose tout de suite l'IVG médicamenteuse ».
D'accord. La loi, elle parle de combien de temps en termes de délai aujourd'hui ?
Aujourd'hui, en France, on peut avorter jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Ça correspond à 14 semaines de grossesse. C'est 15 jours qu'on a gratté en 2021 ou 2022, je crois.
Oui, c'est récent, ouais. 22, je crois.
Et pourquoi cette date, elle est arrêtée aussi abruptement de cette semaine? Ça fait 2 mois. Ouais, même pas. Ça paraît court.
Pour l'IVG médicamenteuse.
Ouais.
Ouais. Alors, c'est deux méthodes qui sont différentes et donc qui doivent être compatibles avec l'âge de la grossesse. Hein. C'est pas les mêmes techniques. Ensuite, je sais plus. C'était quoi le début de ta question ?
Non, je demandais pourquoi on arrêtait ça à cette semaine. Est-ce que c'est une question strictement médicale ou c'est parce que on a décidé comme ça que avant c'était bien, et après c'était dangereux, ou c'est une question morale, c'est une question...
Je pense qu'il y a un peu tout ça de mélanger. Les délais ne sont pas réfléchis au sens médical, mais c'est plutôt le législateur qui a décidé ça, en fait.
D'accord.
Ouais.
Au début, c'était 12, je crois.
12, ouais. 12,
après, c'était 14.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Parce que, de prime abord, hein, sans ne connaître pas grand-chose, mais cette semaine, ça paraît vachement court entre le fait de se rendre compte, de prendre sa décision et de trouver les moyens de l'appliquer, ça va très 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 vite, quoi. Oui. Donc si jamais on n'est pas dans les clous de la loi, qu'est-ce qui se passe alors ?
Eh ben, y a encore l'autre solution, l'IVG par aspiration. Et après, normalement, le médecin doit pouvoir répondre à la demande de la personne dans les temps, dans les délais, pour qu'elle puisse accéder à son avortement comme elle le souhaite, avec les médicaments.
D'accord. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'est-ce que ça représente, le ratio entre les demandes et les IVG effectives, la capacité de l'hôpital public à recevoir des IVG? Vous, qu'est-ce que vous voyez au planning par rapport, on va dire, à la réalité de terrain, quoi?
Alors, là où il y aura plus de difficultés, c'est dans le... comment dire? Si la personne a des papiers ou pas, par exemple. Mmh. Ça va être encore un peu plus compliqué. Mais à Reims, au centre de santé sexuelle, pour travailler régulièrement avec elles, elles font tout pour que le choix et la demande de l'avortement soit respecté, et dans les temps et dans les délais, pour répondre strictement à la demande de la personne.
D'accord, fonctionne bien.
Ouais, ouais, ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais.
Et au niveau national, vous savez combien il y a de... d'IVG, en fait, très pratiqué, ouais.
Ouais. Bon, il y a des stats qui sortent régulièrement sur le nombre d'IVG pratiqués en France. En moyenne, on tourne aux alentours de 200 000 avortements en France. C'est un chiffre qui est stable, qui ne bouge pas beaucoup. Sauf l'année dernière, en 2021, il y a eu plus de 17 000 IVG réalisés. Mais c'est un chiffre qui ne bouge pas, qui... depuis que la loi Veil est en place, c'est à peu près le même niveau d'IVG en France par an.
Alors en fait, c'est à la fois faible, mais en même temps important. Mm-hmm. Ce que je veux dire par là, c'est que ça concerne un nombre important de femmes. Donc
ouais.
Quasiment une femme sur deux peut être concernée, ouais. Sur trois, ouais. Peut être concernée au cours de sa vie,
oui.
À avoir recours à une intervention volontaire de grossesse. Mais de l'autre côté, ce n'est pas une pratique médicale anodine, ou on va dire, c'est pas comme un vaccin, ou c'est pas on va dire contraception de confort, là, ces méthodes de contraception, les horreurs qu'on peut entendre les IVG de confort, quoi. C'est pas anodin, mais en même temps ça concerne énormément de femmes, on l'a dit, une femme sur trois, une femme sur deux, donc c'est quelque chose qui est fondamental de le traiter comme une question politique et de santé publique, quoi.
Oui, exactement.
Ouais, non, exactement. Et après, dans les dimensions de choix d'avortement, de est-ce que les femmes ont toujours le choix de quel type d'avortement elles veulent pratiquer, il y a aussi la dimension d'accompagnement derrière, parce que malheureusement, souvent dans l'IVG médicamenteuse, il va y avoir peu d'accompagnement post-IVG. La personne va se retrouver seule avec la suite que ça peut amener, parfois des complications, etc. Et donc, il y a aussi cette dimension-là. Il y a peut-être un manque aussi d'informations à ce niveau-là, ou un manque de données pour les personnes qui ont besoin d'avoir recours à l'IVG sur quelles conditions d'accompagnement il y a aussi, quoi, dans ce...
Finalement, il y a assez peu d'informations, de fait, ouais. À la fois, normalement... l'éducation à la sexualité, elle doit se faire à l'école,
oui.
normalement, ou dans des espaces publics, mais normalement c'est à l'école, et il faut remonter très loin dans nos souvenirs pour avoir eu, on va dire, la chance de bénéficier d'une heure et demie à peu près au collège, si je me souviens bien, et encore, on va dire. Les gestes de premier secours, ils étaient, on va dire, plus publicisés que ce droit. Non seulement juste une information pour pouvoir répondre effectivement aux questions que les jeunes filles et que les jeunes garçons peuvent et sont légitimement en droit de se poser. Ça, qu'est-ce qu'elle dit, la loi, sur ce droit à l'éducation sexuelle, ou sur l'éducation sexuelle en général?
Alors, c'est une loi qui date de 2001. C'est la loi Aubry, et elle préconise 3 séances d'éducation par an et par niveau, donc du primaire jusqu'au lycée.
3 heures ?
Ouais.
par niveau.
Ouais.
Et par an.
Et par an.
Bon, s'il y a des gens, vous pouvez nous appeler s'il y a des gens qui ont eu leurs enfants, qui ont eu leurs 3 heures. D'accord, dans la réalité.
La réalité, le planning a fait une enquête nationale. Il y a environ seulement 15% des élèves qui ont eu cette chance-là, d'avoir ces séances-là. Ouais.
Qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir ? Il faut l'infirmière scolaire, un médecin scolaire, des bénévoles, des gens du planning, des profs. Les parents d'élèves peuvent aussi s'en saisir ? Non. Comment ça se passe ?
Alors, en fait, c'est à la discrétion. Enfin, c'est le chef d'établissement, l'équipe pédagogique, qui va décider s'ils mettent en place ou pas ces séances dans leur établissement scolaire. Généralement, c'est pris en charge effectivement par l'infirmière scolaire qui va faire ces séances-là ou qui va demander des interventions du planning pour compléter un peu leur séance.
D'accord, mais sans initiative de la part de l'équipe et du chef d'établissement, ça peut passer à la trappe.
Alors, il y en aura un peu avec les cours de bio, la reproduction basique, quoi.
Ouais.
Ça va être ça, quoi.
Mmh. Oui, mais bon. C'était ça. Hein. Ouais. C'était les profs de SMS qui faisaient le travail.
Ouais.
C'est pas super de discuter droit et éducation et de poser ces questions à la sexualité à son prof de bio, quoi. C'est forcément l'espace le plus confortable, on va dire.
Mmh. Puis c'est pas forcément des gens formés non plus avec cette dimension-là, parce que c'est quand même éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Ouais.
Donc c'est pas juste la dimension de la reproduction au sens très... scientifique, naturel, du fait quoi, il y a toute une dimension de prévention, de relationnel ici qui entre et qui demande de la formation et c'est pas le cas de la plupart des profs d'SVT, je crois.
Chacun à sa place quoi. Le prof il donne des cours de bio et on va dire il y a des gens qui sont spécifiquement formés et qui ont aussi un autre rôle. Mmh. C'est le cas des militantes du planning familial quoi. Mmh.
Oui, après ce genre de séance ça peut être transversal aussi. Hein. On peut en parler en histoire, on peut en parler en français. C'est des sujets qui sont transversaux.
Maths, on ne parle pas au niveau statistique.
Par exemple, c'est vrai, hein, c'est des sujets qu'on peut aborder et qui sont très prégnants pour les jeunes, quoi.
Ouais.
Et puis, effectivement, comme tu dis, il faut être un peu formé parce qu'on ne va pas parler juste de la reproduction et encore, on va surtout parler de l'hétérosexualité au final.
Ouais.
Et sans parler de tout ce qui existe autour, quoi.
Et dans vos interventions, quelles sont les... Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement ? Comment vous les qualifieriez ? Qu'est-ce que vous retenez, vous, de vos interventions et des contacts que vous avez avec les collégiens, pour le coup, enfin, les jeunes élèves, d'une manière générale, qu'est-ce qui revient comme questionnement, si vous êtes... S'il y a des typologies, hein, si ça part dans tous les sens, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui revient comme questionnement ?
Déjà, ils sont demandeurs et demandeuses. Ouais. Chaque séance, quand est-ce que vous revenez, madame ? Voilà. Après, ils apprécient parce que c'est un espace d'échange. Moi, je ne viens pas y faire un cours. Hein. Je ne viens pas avec mon diapo et montrer « on fait ça, et machin ». C'est un espace d'échange où ils peuvent poser les questions sans jugement. Ça, c'est super, super important pour eux et elles.
Oui, il y a une écoute et effectivement, il n'y a pas de jugement. Quoi. Donc, il y a un vrai besoin d'écoute quoi, sans parti pris ou sans jugement. Donc, c'est une parole qui est vachement importante. Quoi. Mmh. Et donc, c'est une question qui devrait être aussi, dans la société, discutée de manière... partisane certes, mais apaisé quoi, tranquillement comme un autre type de. Alors si on revient au formel pour le coup, qu'est-ce que elle dit cette inscription dans la Constitution ? J'ai même pas regardé. Qu'est-ce qui est dit exactement ?
C'est vrai, t'as pas regardé.
Non, tu sais moi la Constitution.
justement par rapport à ça, vous avez peut-être le dire. Il y a quand même eu une différence entre le début. Où on espérait que le mot droit soit marqué. Mmh. Et puis finalement, c'est la liberté qui a été... Alors, expliquez-nous un petit peu la différence, quoi.
Eh bien, moi, j'ai envie de dire que depuis le début qu'il y a ces discussions sur le droit à l'avortement, depuis le vote de la loi Veil, il y a toujours eu des concessions. Et là, encore une fois, c'en est une. Voilà, on a choisi plutôt le mot liberté que le mot droit.
Et donc, la liberté d'avorter, ça veut dire que on peut avorter effectivement en France, c'est cool. Mais après, c'est l'accessibilité, quoi. Dans quelles conditions on peut avorter? Si dans 3 ans, on a un nouveau gouvernement plutôt réac, il peut remettre en cause le remboursement de l'IVG, par exemple, revoir les délais jusqu'où on peut avorter ou pas. Enfin, toutes les conditions sur lesquelles nous, on lutte pour avoir un accès... correct et dans de bonnes conditions pour avorter, quoi.
Ces précisions ne sont pas inscrites dans la loi. Il est juste indiqué qu'on a
la liberté
de pratiquer une interruption volontaire de grossesse.
Oui.
Point.
Oui.
Ouais, c'est très vague.
Oui.
Effectivement.
Tu me diras, on pourrait dire aussi que le droit, dans la Constitution, il y a des droits qui sont marqués, comme le droit au travail, comme le droit au logement. Comme...
C'est vrai.
Ah, et c'est pas pour ça qu'en réalité... ça s'applique, quoi.
Ouais.
La pratique est une autre chose.
C'est clair. Mais en même temps, j'ai envie d'ajouter que cette constitutionnalisation,
bravo.
c'est un petit peu un pied de nez au réac
aussi,
et aux anti-choix. Pour nous, c'est une petite victoire quand même. Enfin, voilà, de dire que ces personnes-là, maintenant, n'auront plus à remettre en cause ce droit ou cette liberté.
Mais est-ce que ça existe encore des gens comme ça?
Oui.
Ah bon? Mais où ça?
Faut sortir un peu.
Mais non, mais moi, ça me paraît tellement absurde. Pour moi, c'est... des images des années 80 avec des individus assez patibulaires qui se mettaient des antivols de vélo dans des salles de consultation d'avortement. Mais ça, c'est un peu une image, on va dire, typique, traditionnelle de gens que j'avais eu l'occasion de rencontrer ou de combattre. Avec certains camarades, on allait à l'hôpital Tenon à Paris et le grand jeu, c'était de leur lancer des œufs quand ils faisaient leur prière, etc. On va dire un passage obligé du petit anarchiste de jeune. Mais désormais, il y a d'autres biais, d'autres moyens. Je sais par exemple que certaines camarades m'ont parlé d'une offensive assez forte sur Internet, notamment.
Ouais,
avec
mais ils l'achat ont toujours
de domaine et tout ça.
Ouais, mais ils sont toujours présents sur Internet. Donc c'est des sites de désinformation. Qui vont reprendre un peu les mêmes codes que le site du gouvernement, par exemple, ivg.net. Et donc là, ils vont faire des témoignages, il va y avoir des images et donner de fausses informations. Mais à la limite de la légalité, tu vois. Parce que dans la loi pour l'avortement, il y a le délit d'entrave. Donc ils font en sorte d'être juste à la limite de la légalité, en fait, pour pas être... Dans ce délit d'entrave, justement. Mais après, les personnes que tu décrivais, elles sont encore là. Mais on va parler des cathos, hein, de manière générale. mais il n'y a pas que les cathos. Hein, y a aussi les personnes réac aussi, hein, les réactionnaires qui sont contre aussi le choix des femmes de disposer de leur corps. Et puis, étonnamment, j'en suis désolée, mais beaucoup de jeunes, en fait, reprennent ces discours-là. Des assos ou des collectifs comme les survivants, par exemple, qui font de la désinformation, qui racontent n'importe quoi sur l'avortement, sur le fait que maman a avorté, alors il me manque un petit frère ou une petite sœur. Enfin,
oui,
tu vois, des choses hallucinantes, quoi.
Complètement caricatural, effectivement.
Ouais.
Et le problème, c'est que ces individus ou ces groupes d'individus, ils ont en général plus de moyens financiers les défenseurs des droits, quoi, pour le coup. C'est le cas des survivants qui peuvent se payer des campagnes d'affiches. Alors, le concept, c'est de dire que depuis l'existence de la voie Veille, il y aurait eu des milliers d'avortements, donc de non-vie. Et que donc les gens qui sont aujourd'hui 30 et 40 ans, ce sont des survivants de cette folie. Il faut toujours leur rappeler qu'un embryon n'est pas la vie. Hein.
Tout à fait.
Un être humain, ce n'est pas un embryon, et un embryon, ce n'est pas un être humain. Ce sont deux choses différentes, comme vous pouvez le constater, puisque là, ce sont des êtres humains qui vous parlent, pas des embryons. Voilà.
Et non, bon. Un groupe de personnes aussi dont on n'a pas parlé, mais des personnes du corps médical qui sont pro-vie. Et ouais. qui ne se cachent pas, qui l'affichent et qui ont aussi un discours. Enfin, voilà, ce sont des personnes vers qui on est censé se tourner dans ces moments-là. Et on peut être dissuadé aussi par des personnes du corps médical.
Ouais. Il y a le pouvoir médical, et puis d'ailleurs c'est la question que j'allais vous poser, parce que dans cette constitutionnalisation et dans la loi, tu parlais du délit d'entrave, mais il y a toujours cette double clause de conscience. Alors pourquoi elle est double, cette clause de conscience ?
Mais je te renvoie la question. En fait, de manière générale, cette loi, elle existe pour les médecins. Mais ils ont rajouté et appuyé encore sur cette double clause de conscience, spécifiquement pour le droit à l'avortement. Il n'y a pas d'autre droit qui est autant stigmatisé que l'IVG. Il n'y a que ce droit-là où il y a la double clause de conscience. Et effectivement, des médecins peuvent refuser de répondre à la demande de la femme. Mais dans ce cas-là, ils ont l'obligation d'orienter vers des personnes qui pratiquent. Donc ils vont dire appeler le planning familial, par exemple. Mais oui, ça existe encore.
Ouais, et on sait que lors des discussions préparatoires, l'ordre des médecins a joué à plein de son pouvoir pour pouvoir, pour le coup, faire respecter cette fameuse clause de conscience, quoi.
Ouais.
Donc c'est quand même hallucinant de voir que des gens qui ont été formés et payés par, on va dire, la collectivité... se servent aujourd'hui de leur pouvoir, pas la majorité bien sûr,
bien
mais
sûr,
bon,
oui.
On imagine que quand un médecin parle, déjà, quand on est dans une situation de demande et parfois de difficultés, ça a un impact un peu plus fort que effectivement d'autres interlocuteurs, quoi.
Mm-hmm.
On fait une pause musicale là.
Allons-y. C'est pas sûr, hein.
Les femmes, notre temps est arrivé. données sont notre force. Les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime. Les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons nos femmes esclaves et jouissons sans entraves. Debout, debout, debout.
Le principe du droit à l'avortement est quasi complètement unanimement accepté dans le milieu médical. C'est très rare, les médecins vraiment anti-IVG aujourd'hui. Et c'est plutôt mal vu. Ça, je me suis rendu compte, hein, tout le monde m'affirme unanimement un soutien au droit à l'avortement, en tout cas minimaliste, version loi Veil, parce qu'on peut défendre des droits à l'avortement plus ou moins libéraux, hein, à des termes différents, avec des contraintes différentes. Mais en tout cas, sur le principe, il y a quand même un accord de fond. Et c'est plutôt les quelques médecins qui vont s'afficher comme anti-IVG qui vont être pointés du doigt. Donc, il n'y a pas vraiment de stigmate de l'avorteur ou de l'avorteuse en France, contrairement à d'autres pays comme l'Italie ou comme les États-Unis et même parfois l'Espagne, dans une moindre mesure. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt un stigmate du réac, en fait, qui veut pas faire des IVG en France. Par contre, il y a quand même une réticence assez forte de la part des médecins les plus dominants du champ de la gynécologie, donc les spécialistes, les gynécologues obstétriciens, de faire ce qui est encore considéré comme du sale boulot, c'est-à-dire assez ennuyeux et répétitif sur le plan chirurgical par rapport à d'autres opérations, et assez ambigu, on va dire, sur le plan moral, parce que c'est quand même des médecins qui sont formés, habitués à valoriser le fœtus, à humaniser le fœtus dans le reste de leur travail, qui font de la PMA, de la médecine fœtale, du suivi de grossesse, de l'obstétrique, et dont en fait le métier consiste globalement à faire en sorte que des grossesses soient menées à terme et se déroulent bien. Donc ces médecins qui sont habitués à tout ce volet entre guillemets, donner la vie, même s'ils reconnaissent la légitimité du droit à l'avortement sur le principe, vont quand même être un peu perturbés, un grand nombre d'entre eux et elles, par la pratique des IVG, et vont quand même être gênés par le geste. Dans l'entretien, il y a beaucoup de dégoût qui ressort, un vocabulaire de la boucherie, un vocabulaire très humanisant autour du fœtus qui est considéré quand même comme un bébé, qui ne remet pas du tout en cause pour ces médecins, pour autant, le droit à l'IVG, hein, ça leur paraît quand même légitime, mais ça les dégoûte. C'est gore, c'est glauque, ils ont l'impression de tuer un bébé. C'est vraiment ce qu'on me dit, hein. Sans, encore une fois, sans être anti-IVG. Pour les gynécologues spécialistes, donc les gynéco-obstes, il y a quand même, avec de rares exceptions de médecins engagés pour l'avortement, militants, féministes, etc. Mais en grande partie, il y a quand même cette ambivalence de, à la fois, on est très favorable au droit à l'IVG et on veut tout faire pour que ça soit accessible, et en même temps, on n'aime pas faire ça. C'est pas intéressant pour nous, on va pas faire carrière avec l'IVG. Une fois qu'on a passé nos premiers semestres d'internat, c'est plus formateur d'aller au bloc opératoire faire des IVG, et on préfère faire du cancer de l'utérus, des hystérectomies, etc. Et donc, en fait, on va essayer de s'en débarrasser, on va le déléguer aux internes, on va le déléguer à des généralistes ou à des sages-femmes qui vont avoir des postes dédiés. Et donc, en fait, on va plus en faire. Donc, la question de la clause de conscience, elle se pose pas tellement, elle n'est pas si intéressante en tant que telle en France, parce que c'est très rare les médecins qui doivent utiliser la clause de conscience pour ne pas faire d'IVG. Quand on est gynécologue obstétricien, une fois qu'on a fini notre internat, on n'a plus besoin d'utiliser la clause de conscience, à de rares exceptions, pour ne pas faire d'IVG. Il suffit en fait de le déléguer à d'autres personnes. Donc les seuls qui vont devoir utiliser la clause de conscience, ça va être les internes, ou ça va être des situations spécifiques, et c'en est vraiment un petit nombre qui sont prêts à utiliser la clause.
Ouais, c'était un petit son d'une émission de radio du côté de Gaillac pour expliciter un petit peu cette histoire de clause de conscience et illustrer ce qu'on disait sur le pouvoir médical et le pouvoir du médecin. Tu voulais préciser autre chose aussi sur la question de l'inscription dans la constitutionnalisation du droit à l'avortement comme quelque part un exemple et un encouragement et en tous les cas un signe pour les droits des femmes de manière plus large et de manière internationale.
Ouais. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a environ 40% des femmes vivent dans des pays où le droit à l'avortement est restreint, voire totalement interdit. Donc c'est un beau signal, effectivement, qu'on envoie dans tous les pays, en fait, et auprès de toutes les femmes, pour leur dire, en France, on l'a, et c'est inscrit dans la Constitution. Battez-vous.
Et puis aussi spécifier que ce droit, il ne tombe pas du ciel, c'est-à-dire ce n'est pas, on va dire, un don, un cadeau qui a été fait par la classe politique pour les femmes, mais c'est le résultat de luttes, de dizaines et de dizaines d'années de luttes dans ce pays, dans cette société, dans la société française, et puis d'une manière plus large, évidemment, des luttes pour les droits des femmes et des luttes féministes dans le monde entier. D'ailleurs, le planning familial est issu de cette histoire-là. Est-ce que ça ne serait pas l'occasion pour vous de nous présenter un petit peu le planning familial comment ça marche, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, comment on vous trouve si on veut vous trouver. Tu parlais tout à l'heure du numéro vert, il faudra le rappeler à cette occasion. Allez, au travail. Publicité.
Planning familial, c'est un mouvement qui existe depuis 1956. La première association s'appelait Maternité Heureuse.
Ouais.
Et donc,
tant qu'à faire.
Bah voilà, c'est des femmes, des hommes qui se sont battus pour justement avoir le droit déjà à la contraception et ensuite le droit à l'avortement, effectivement. Et nous, au planning, on a toujours milité pour améliorer ce droit. Au démarrage, la loi Veil a été votée avec plein de concessions pour que cette loi passe. Et donc, on a toujours lutté pour améliorer le droit et le rendre effectif un peu partout sur le territoire. Ouais. Et d'ailleurs, cette année, c'est les 50 ans du MLAC, le mouvement de libération pour l'avortement et la contraception. Un mouvement qui a milité très fort pour l'avortement. Et donc nous, au planning, on va travailler sur une veille pour voir sur le territoire comment on a accès à l'avortement en France.
D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler quelques dates? La dépénalisation de l'IVG, c'est quand?
C'est
75, hein, c'est ça.
Veille, c'est
C'est-à-dire qu'auparavant, hein, pour que les gens quand même se rendent compte, hein, c'est-à-dire que si on se faisait gauler, dénoncer, soit pour avoir pratiqué un IVG, soit pour y avoir eu recours, on était passible de peine de prison.
Il y a eu des
mort.
Il y a eu des procès d'ailleurs historiques.
Il y a eu une femme guillotinée parce qu'elle pratiquait des avortements clandestins, effectivement.
C'est ça. Outre évidemment l'absence de sécurité et d'hygiène puisque c'était pas on va dire c'était hyper dangereux quoi.
Tout à fait.
Les septicémies etc. Voilà, il y a eu des gens qui se sont battus, qui se sont mis hors la loi pour le coup, en apportant des pompes pompes Karman ou en pratiquant dans des hôpitaux de manière un peu clando des IVG, mais ce n'est que il y a 40 ans, hein, donc à l'égard d'une vie de femme et d'homme, c'est fort peu, hein, c'est très fort peu, c'est vraiment. Et on voit que c'est quelque chose qui est très tangent parce que on entend des choses assez flippantes ces derniers temps. On parle de réarmement démographique, ce genre de merde, etc.
Mais c'est le même discours qu'on pouvait entendre dans les années 20, quoi.
tu vois. Faut repeupler la France. Quoi. C'est, et encore, et sur qui ça retombe ?
Sur les femmes.
Les meufs.
Voilà.
Voilà. On doit.
Si on veut faire la guerre.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est, ouais.
Et surtout, comme si le gouvernement disposait de nos corps. Et qu'on était des utérus et des ventres, enfin des génitrices simplement. Oui. Et. Le, en même temps que, qu'ils font passer la liberté, on dit bien la liberté parce qu'il y a toute cette dimension derrière de nier en fait le droit à disposer de son corps, parce que c'est donner la liberté, c'est vraiment pas du tout la même puissance dans les mots. Et là, avec ce terme horrible de réarmement démographique, enfin ça, enfin ça, on sent ce qu'il y a derrière, donc cette dimension belliqueuse et ce côté de bah voilà disposer du corps des femmes et c'est un discours réac.
Mais vous n'avez toujours pas compris que votre corps ne vous appartenait pas.
Bah, visiblement,
qu'il appartenait à l'État.
Voilà. C'est ce que Macron nous dit.
Entre autres. Mais, non, mais c'est terrible de voir en plus des individus qui sont normalement plus jeune, tu vois, avoir des discours aussi réactionnaires et faisandés. Donc on voit en fait le corps des femmes, c'est vraiment un enjeu politique énorme et c'est toujours un champ de bataille, quoi.
Exactement. C'est des discours portés par des hommes hein, aussi, faut le dire. Enfin.
Oh, ça peut être aussi porté par des femmes dans certains cas. Hein. Faut pas certes. Non plus.
Mais bon, c'est toujours une autorité, quelle qu'elle soit, ouais, qu'elle soit religieuse, patriarcale, voire étatique. En général, ces trois-là, elles vont plutôt bien ensemble, elles marchent de concert. Mais heureusement, donc, y a des associations comme le planning familial. Donc, planning familial à Reims, c'est où et c'est quand ?
Alors, au planning familial de Reims, alors on est à un EVAR, c'est un espace de vie affectif, relationnel et sexuel. Donc on
c'est beau, c'est joli.
Ça va
On y trouve quoi ? De l'affection. Alors, et de la sexualité.
Voilà. Et des relations. Moi, je suis conseillère conjugale et familiale. J'accueille pendant nos temps de permanence, qui sont anonymes et gratuits, des personnes qui veulent des réponses sur, par exemple, comment je fais si je veux avorter, ce genre de choses. Je peux les accompagner également. On peut les accompagner. On est plusieurs. On y trouvera des tests de grossesse et des préservatifs internes externes gratuitement. Et puis, oui, l'accompagnement, une écoute bienveillante, sans jugement.
C'est ça. Vous pouvez filer un coup de main pour accéder au droit à la contraception également, pilule et tout ça.
Non.
Non. Vous pouvez orienter éventuellement.
On oriente. Comme je disais, on travaille beaucoup avec le centre de santé sexuelle de l'hôpital Maison Blanche. Et puis, on a aussi d'autres professionnels de santé avec qui on travaille régulièrement. On oriente. On ne peut pas faire de prescription. D'accord. On n'a pas d'équipe médicale. Ouais.
Même pour des choses comme des pilules ?
Non.
Même pas ?
Non.
Qu'est-ce qu'on a le droit ? Alors, on a le droit d'avoir la pilule en étant mineur sans avoir l'autorisation de ses parents. Comment ça se passe ?
Ouais.
À partir de quel âge ?
Il n'y a pas de limite d'âge.
Bonjour, j'ai 8 ans. Je...
Non, mais on s'entend bien. Hein. On n'est pas tous aussi précoces, Jean-Mia. Non, le droit à l'IVG. Si je reviens sur le droit à l'IVG, les femmes mineures peuvent accéder à l'avortement sans prévenir les parents. Il faut simplement qu'elles soient accompagnées par une personne majeure de leur choix. Okay. Et si elles ne trouvent pas, moi, je peux le faire.
D'accord, ok. Mais ça frangine une copine.
Ouais, c'est faisable. Il faut avoir 18 ans.
D'accord, ok. Sans rendez-vous ?
Sans rendez-vous.
Ok. Avec rendez-vous aussi, éventuellement, si on vous
appelle
avant.
Ouais, avec ou sans rendez-vous, tout à fait.
Mais sans rendez-vous, c'est pas besoin de se casser les pieds à téléphoner, passer. Il est où cet espace de vie affective et sexuelle ?
Et relationnel.
Et relationnel, pardon.
On est situé à la Maison de la Vie Associative, rue du Barbâtre.
D'accord.
À côté de Sciences Po. On est au bureau 307.
C'est tous les jours ?
Alors, moi, je suis présente régulièrement au bureau. Ensuite, il y a des temps de permanence qui sont aménagés. Le mardi soir, de 18h30 jusqu'à 19h30. Et le mercredi après-midi, à partir de 15h.
D'accord.
Voilà. Okay, ouais. Et ensuite, on peut fixer des rendez-vous en dehors de ces plages de permanence.
Ouais. Ouais, voilà. Si, pour une raison ou pour une autre, la permanence est occupée et ne peut pas vous recevoir, ce n'est pas une raison pour ne pas toquer et demander un rendez-vous. Quoi. Il ne faut pas hésiter.
Tout à fait.
Et même à donner l'information à des copines et à des copains.
Exactement.
Y a des choses encore qui existent et il y a des militantes qui sont là, autant les utiliser. Et par ailleurs, si on veut filer un coup de main au MPPF, au mouvement pour le planning familial, Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, on peut adhérer à l'association. On peut donner des dons.
Des sous, plein.
Des sous, effectivement. On peut militer, on peut venir nous filer des coups de main pour organiser des actions, pour se former un peu sur ces questions-là. Louise, ouais, voilà, un peu ça, quoi. Mettre en place, ouais, des actions, faire reconnaître le droit des femmes en organisant des projections de films, des manifs, ce genre de choses, quoi, ou tout simplement en venant filer un coup de main au planning, quoi.
Oui, c'est ça. Puis en plus, ce sont des militantes, des militants qui se forment en permanence, toujours. Qui ont eux-mêmes construit, on va dire, leur propre savoir, puisque, comme on l'a dit, pendant un très long moment, le savoir sur le corps des femmes et sur la sexualité était réservé à des autorités, qu'elles soient médicales, religieuses, étatiques, et que donc une grande partie de l'action militante féministe a été aussi de connaître et d'apprendre à ses propres problèmes et ses propres solutions, quoi. Donc c'est souvent un moyen très important pour acquérir du pouvoir et du savoir.
L'autodétermination.
Et donc il y a vraiment des compétences spécifiques, et même par exemple, si on est parent et que on n'est pas super à l'aise là-dessus, parce que c'est pas forcément inné de parler de sexualité à ses enfants, et de même souvent on ne le connaît pas, autant utiliser les ressources qui existent.
Ouais. Mais pour compléter un peu ce que tu dis, le planning familial, c'est un mouvement où on sait... c'est un mouvement de féministes, et toutes les informations qu'on a pu obtenir sur la contraception, sur le corps, sur comment ça marche, sur l'avortement, etc., tout ça, c'est des informations qu'on a été chercher sur le terrain. C'est des informations qu'on a partagées entre nous, entre femmes.
Autonome.
Voilà, tout à fait. Et l'avortement, par exemple, quand la méthode Carman est arrivée en France, le MLAC, par exemple, faisait des IVG au su et au vu de tous.
Oui, il y en a eu à Reims.
Il y en a eu certainement à Reims.
Il y a eu un MLAC à Reims.
Ouais.
Des IVG publics ?
Oui.
D'accord.
Ouais.
À la fois pour dédramatiser et
puis pour faire pression sur les pouvoirs publics en leur disant « Nous, on les fait, les IVG, qu'est-ce que vous attendez, quoi ?»
D'accord.
À cette époque-là, sur Reims, je me souviens, je n'ai pas participé moi-même, hein, mais j'étais vraiment au courant, et c'était des médecins, hommes ou femmes, qui étaient Mao, sur Reims,
d'accord,
qui faisaient ça.
Oui, comme quoi on peut tout attendre d'un médecin. Quoi. Tout est possible.
C'était
quoi. Il peut y avoir
les Mao qui sont maintenant en retraite, hein, comme médecins.
Mais juste pour faire une petite parenthèse encore sur l'avortement, là où je veux en venir, c'est que cette méthode d'IVG qui a été rapportée par Carman, qui n'était même pas médecin à la base, hein, ce gars-là, ouais. C'est une technique qui était éprouvée et faite par des femmes, entre les femmes. Il n'y avait pas besoin de médecin. Enfin, c'est très simple comme technique, en fait.
C'est quoi ? C'est la technique par aspiration, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
D'accord. Oui, qui permettait justement de se passer de spécialiste et donc d'avoir recours, demander quelque part l'autorisation et l'intervention de spécialistes. Quoi. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'on peut...
J'ai une question à poser, moi.
Je t'en prie.
j'ai lu qu'il y avait quand même 130 centres IVG qui ont été fermés, fermés en France en 15 ans.
Ouais.
C'est énorme.
Ouais. Ouais, ben c'est la loi de Sarkozy là sur le financement des établissements hospitaliers, etc., qui doivent être rentables avant de répondre aux besoins de santé de la population. Et donc, ça engendrait des fermetures de maternité, de centres IVG, etc., etc. Donc, ça veut dire que l'accessibilité est encore réduite. Ouais.
Encore plus dans ce qu'il y a quand il y a des déserts médicaux, avec en plus des choses qui se surréajoutent, à la fois le manque de personnel soignant, la réforme et la transformation des groupements hospitaliers territoriaux qui concentrent tout.
Ouais.
Effectivement, pour boucler la boucle, c'est pas parce qu'un droit il est inscrit quelque part qu'il est effectif, quoi.
Tout à fait.
Mais 130 sur... Aujourd'hui, il y aurait combien de centres IVG Il n'y a pas un ratio par département, il n'y a pas une obligation d'en avoir par département.
Ici, les centres de santé sexuelle, dans les grosses agglomérations, les départements ont l'obligation d'en mettre en place.
D'accord.
Je ne sais pas à quel niveau exactement, mais oui, il y a cette obligation.
Mais on peut imaginer que dans des départements fortement urbanisés, comme Paris, Lille, enfin, ce n'est pas des départements, c'est des villes, mais c'est le Nord, l'Île-de-France, la Seine-Saint-Denis. Il peut y avoir certaines ressources, mais dans la Drôme, dans la Creuse, il y en a peut-être un ou deux. Donc, ouais. Pour y aller,
il y en a pas.
Ouais. Donc, ouais. Pour y aller, et en plus, quand tu y vas pour avoir une place, c'est pas super simple. Justement, par extension, aujourd'hui, où est-ce qu'en sont quelque part où est-ce qu'en sont les droits des femmes aujourd'hui globalement? Est-ce que tu dirais, vous diriez qu'on est en recul, on avance, on stagne, comment vous qualifieriez la situation?
C'est compliqué, enfin, je trouve ça compliqué parce que là, par exemple, rien qu'avec l'exemple de cette liberté de l'IVG, comme on dit, dans la Drôme, en fait, on ne sait pas combien il y a de centres pour y accéder en vrai. Donc, encore une fois, c'est beau, c'est symbolique de rentrer ça dans des lois, dans la Constitution. Ça acte des choses, mais quels moyens on déploie? Comment on éduque les gens, on change les mentalités et les cultures, parce que la sexualité, c'est tabou. Le corps des femmes, voilà, on n'a pas la liberté d'en disposer. Du coup, l'IVG, c'est tabou, enfin, etc., etc. Donc, il y a des dimensions où, oui, factuellement, ça va avancer sur certains points, parce que cette liberté, c'est une victoire énorme. Mais dans les faits, dans l'éducation générale, dans les mentalités, j'ai pas vécu toutes les vagues du féminisme, mais je sais que, et je suis une femme blanche de classe sociale moyenne privilégiée, enfin, j'ai conscience de ça, et j'ai quand même encore à lutter tous les jours de ma vie, quoi. Donc, c'est, je pense, aussi une expérience très subjective, et qui a plein de prismes, et que la question de l'intersectionnalité qui est rajoutée aujourd'hui est hyper intéressante pour se rendre compte qu'en fait il est grand temps aussi de s'occuper de la convergence des luttes, et que on n'avancera pas chacun tout seul, chacune tout seul dans nos coins. Mais ouais, je sais pas répondre à la question, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on a stagné, est-ce qu'on a reculé, enfin voilà ce que j'aurais à dire.
Et toi ?
Et moi, pour compléter, je dirais qu'il y a des changements dans la société, au niveau individuel, des personnes qui réfléchissent un peu plus sur leur place. Après, quand tu vois que l'AME va être remise en question, qui est-ce qui va encore en pâtir ? Ce sont les femmes. Par exemple, l'AME, normalement, je reprends encore l'exemple, l'IVG, c'est un soin d'urgence. Une femme qui n'a pas de papier doit pouvoir accéder à l'avortement. Pour ça, il faut qu'elle passe par un établissement de santé et qu'elle demande d'ouvrir le dossier de l'AME pour pouvoir accéder à ce droit-là. Si l'AME est remis en question, qu'est-ce qu'elle fait, cette dame-là ?
Ouais, mais bon, il y a quand même des gens qui se battent justement pour conserver l'AME. Le problème de l'AME aussi, c'est que les crapules comprennent que s'il n'y a plus d'aide médicale d'État pour ceux qui sont sans papier, ça pose des problèmes de santé publique.
Tout à fait, aussi, oui. Oh,
parce
oui, je
que
suis
bon,
d'accord.
Ouais. Y a un certain nombre de maladies, si on ne les soigne pas, ça risque d'amener des catastrophes, comme la tuberculose, par exemple.
Ouais, mais il ne semble pas que le bien général et l'intelligence soient au cœur des politiques publiques ces derniers temps. Hein, je ne veux pas médire, mais en tous les cas, ça me paraît pas. De toute façon, oui.
Après, pour en revenir sur les droits en général, les droits des femmes, il y a encore... on va parler un peu des violences quand même.
Ouais.
Hein, voilà, il y a...
On refera une émission là-dessus.
On est d'accord, ouais. Depuis le début de l'année, il y a quand même plus de 30 féminicides.
Ouais. Ensuite, 36 aujourd'hui, malheureusement, c'est le 36e.
Ouais,
on est au mois de mars. Hein.
Voilà. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'effectivement, la loi Aubry sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle soit mise en place dans tous les établissements. Ça permettrait justement de déconstruire un peu tous les stéréotypes de genre et de démonter un peu tous ces systèmes de violence. Quoi. Après, ce qu'on veut aussi, c'est que les femmes puissent travailler à salaire égal. Aussi.
Ouais.
Hein, c'est un peu logique. Ah, écoute, quand même.
Ça fait beaucoup. Hein.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Non, mais c'est fondamental, mais ça implique une révolution aussi intellectuelle et une forte volonté. Et c'est pas complètement impossible si on prend un pays, par exemple, comme l'Espagne. Qui n'est pas forcément, on va dire, culturellement et structurellement féministe, mais parce qu'il y a eu des luttes et parce qu'il y a eu une volonté politique, en à peine une dizaine d'années, on a eu une transformation radicale de la prise en charge de la question des violences. Ouais. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, hein, bien sûr, mais en tous les cas, il y a des choses qui se sont profondément transformées, que ce soit dans la réception des plaintes, dans la capacité d'accueil des femmes qui sont victimes de violences. Donc, il y a eu un mouvement qui s'est, comment dire, enclenché et qui permet pour le coup, ça soit extrêmement difficile de revenir en arrière puisqu'on va avoir une génération, enfin des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes filles, de jeunes femmes, etc., qui vont découvrir qu'en fait elles ont le droit de vivre n'importe comment et qu'elles ont le droit de vivre comme elles l'entendent et qu'elles vivent libres et qu'elles n'ont pas à subir quoi que ce soit. Aujourd'hui, ici, quand vous allez porter plainte, on va dire des banalités, mais quand vous allez porter plainte pour violence conjugale, c'est un sacré parcours, quoi. Faut être sacrément accompagné, quoi.
Il y a des choses qui bougent un petit peu. Mais effectivement, faut être bien accompagné. Oui. Ouais.
Le résultat, c'est que, tu le disais, il y a déjà plus de 30 femmes qui ont été assassinées par leurs compagnons en relation directe. Hein. C'est pas.
Compagnon, on va dire, ex-compagnon.
Ou ex-compagnon en relation directe avec leur relation, soit de violence, soit. Conjugale, j'allais dire autre chose, mais c'était pas le terme qui était bon, quoi. C'est ça, hein, quand on parle de féminicide, on parle pas de crime passionnel.
Non, on arrête, ça n'existe pas. Les faits divers, machin, et
voilà,
tout, là. Non,
c'est bon, vraiment c'est spécifiquement. Ça, voilà. C'est quand même quelque chose. Donc, tu peux rappeler, il nous reste une minute, tu peux rappeler le numéro de téléphone, l'adresse et les heures de permanence. Et puis, le dernier mot vous appartient, parce que moi, j'ai beaucoup parlé.
Alors, donc, on nous trouve à la Maison de la Vie Associative au bureau 307, avec les permanences le mardi soir à partir de 18h30 et le mercredi après-midi à partir de 15h. C'est anonyme, c'est gratuit, c'est confidentiel. Il y a le numéro vert national, le 0800 08 11 11. C'est la même chose, c'est gratuit, c'est anonyme. Et là, vous pouvez avoir des réponses à toutes vos interrogations et des orientations vers des professionnels de santé ou d'autres structures qui peuvent vous accompagner.
Bon, vous, merci.
Eh ben, super.
Mais c'est nous.
Eh ben oui. Mais non, mais en plus, nous, ça nous intéresse. Bon, alors, c'est les garçons qui animent cette émission. Mais dans
vrai,
notre principe, la liberté des autres, quand elle grandit, ça fait grandir aussi notre liberté à nous. Donc,
tout à fait.
On n'a pas ni à se sentir menacé de quoi que ce soit, ou avoir peur, ou être en deçà de quoi que ce soit. Puisque,
c'est
en fait,
bien le féminisme.
Voilà.
Ça fait de mal à personne, au contraire.
C'est bien.
Ça sert à toute la société.
Mais plus les gens sont libres, plus tout le monde est libre. Donc voilà, même les garçons, quand les femmes elles sont libres, ça vous renforce votre liberté, ça vous menace pas ou ça vous prend pas quelque chose, ça vous apporte quelque chose
rien.
En plus. Quoi. Voilà.
C'est bénéfique pour tout le monde.
Eh ben, très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
run them jewels fast, run them jewels fast, run them, fuck the slow-mo.
Napaga!
Napaga!